France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, son nom ne vous est sans doute pas familier, mais vous connaissez probablement sa peinture. En tout cas, quelques-uns de ses portraits, le plus fameux étant celui de Moussorgski Hirsute, le visage congestionné et rougi. Son auteur, Ilia Repine, n'avait encore jamais eu les honneurs d'une exposition monographique en France. Le Petit Palais répare cette injustice et propose, depuis le 5 octobre et jusqu'au 23 janvier 2022, un parcours à travers son œuvre avec quelques-unes de ses toiles les plus connues, venues notamment de la galerie Tretiakov à Moscou, mais aussi de Saint-Pétersbourg et d'Helsinki. Ce voyage rappelle combien Repine fut proche des artistes, notamment des musiciens. Et pour nous accompagner dans cette découverte et feuilleter le catalogue de cette exposition, j'ai le plaisir de recevoir André Lischke, Ilia Repine, 1844-1930, peindre l'âme russe aux éditions Paris Musée. L'orchestre du théâtre Mariinsky, dirigé par Valéry Gergiev. C'était un extrait de la Lesginka, une des trois danses orientales du quatrième acte de Rouslan et Ludmila. Mikhaïl Glinka, bonjour André Lischke.
Bonjour Philippe Venturini.
Vous êtes musicologue, spécialiste bien connu de la musique russe et vous donnerez d'ailleurs une conférence autour de cette exposition, parce qu'autour de cette exposition consacrée à Ilia Repine, il y a de nombreuses activités, beaucoup de concerts et une conférence que vous donnerez le 30 novembre à l'écoute des visages, les compositeurs russes et les portraits musicaux. Justement, les compositeurs russes et les portraits musicaux, c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. Je l'ai dit en introduction, Repine était lié vraiment au milieu artistique et notamment aux compositeurs. On va en croiser quelques-uns. Glinka, on voit effectivement, parmi cette exposition au Petit Palais qui réunit une centaine de peintures, quelques portraits, c'était comme une des grandes spécialités de Repine. On voit Glinka en train de composer Rouslan et Ludmila.
C'est son second opéra, oui, après la vie pour le tsar, oui. Alors ce portrait, il est peint sans doute de mémoire parce que Repine était un peu jeune pour avoir pu rencontrer
Glinka. Oui, ils ont 40 ans d'écart.
Oui, quand même, oui. Oui. Mais c'est quand même tout à fait vraisemblable. On voit Glinka qui était un peu une sorte de sybarite dans la vie. On le voit étendu sur un sofa, en train de composer ce magnifique opéra. Et ce qui est aussi remarquable, c'est que cette cette lesguine que nous venons d'entendre, ben c'est la première fois qu'une cette danse caucasienne a trouvé sa place dans un opéra russe. Vraiment, l'exotisme musical, il sera tellement important dans toute la musique russe. Ben c'est avec Glinka qu'il a commencé. Glinka avait fait un séjour au Caucase dans sa jeunesse et en avait rapporté des thèmes, des rythmes de danse.
Alors, Répine, on va le voir, a peint plusieurs compositeurs, mais il y a aussi des portraits de sa famille, ses enfants, des portraits plus officiels, des portraits où on voit des Cosaques, où on voit la Révolution, donc des événements politiques. Comment la vie culturelle et musicale pendant ce 19e siècle, plutôt ce deuxième 19e siècle, puisque donc il y a Répine, je le rappelle, est né en 1844. Comment elle se passait, André Lischke? Comment est-ce que le peintre a pu rencontrer et évoluer à travers ce milieu culturel et musical?
Mais je crois que les peintres russes, de même que les musiciens, étaient très ouverts et en particulier d'une curiosité constante pour tout ce qui concernait à la fois leur peuple, la vie du peuple et aussi l'histoire, bien sûr, parce qu'on a des thèmes historiques aussi chez ces peintres qui faisaient partie de ce groupe qu'on appelle les ambulants, qui est en fait d'une manière beaucoup plus élargie, qui suit un peu le même principe que le groupe des cinq, c'est-à-dire que des artistes qui sont animés par des idées communes, des idées militantes aussi, on pourrait dire tout à fait militantes, s'unissent, donc s'organisent entre eux, pour promouvoir leurs idées à travers leurs œuvres. Et puis, ils vont aussi dans le peuple, c'était le grand principe des intellectuels, des artistes russes, pour y trouver l'inspiration, l'authenticité, parce que la vérité, le réalisme, c'est vraiment une des sources d'inspiration fondamentales, aussi bien des compositeurs que des peintres. Et donc, le parallèle entre donc Répine et des gens comme Moussorgski, notamment, Rimsky-Korsakov et d'autres, ils se fait tout à fait naturellement. Et un personnage qui a fait le lien entre le monde musical et le monde de la peinture, c'était cette personnalité absolument formidable, Vladimir Stassov, critique d'art, un militant, un batailleur, un polémiste, dont Répine a peint un portrait.
Oui, qu'on voit.
Rien que le visage de Stassov, avec cette tête levée, on voit que c'est une personnalité qui est vraiment tout feu, tout flamme pour défendre la cause qui est tellement importante pour lui.
Donc, ces artistes, dites-vous, André Lischke, revendiquaient donc à la fois une histoire, un pays, mais s'intéressaient également donc au peuple. Il y a un des grands tableaux de Répine qui l'a fait connaître, c'est les Halleurs de la Volga,
tout à fait, oui.
On voit effectivement dans quel conditions ces malheureux sont pour tirer ces bateaux.
On voit aussi cette grande procession religieuse avec dominant tout le monde des policiers à cheval.
Qui ne ménagent pas leur coup de trique. Hein.
oui. Et un peuple miséreux autour. Donc le mélange de solennité et puis comme bien sûr d'esprit policier, de réalisme vraiment du peuple au plus bas niveau.
Et là on trouvait vraiment un écho à cette époque, donc en Russie, André Lischke, entre la peinture et donc la musique, alors.
Entre la peinture et la musique, tout à fait, parce que de même que le principe des compositeurs, ça a été de s'inspirer autant que possible des thèmes russes, en général aussi bien pour les sujets, c'est-à-dire des thèmes historiques, des thèmes légendaires de l'imaginaire populaire, de la littérature aussi bien sûr, mais aussi du folklore musical, aussi des textes folkloriques, des textes populaires, tout ça était absolument indispensable, c'était le terreau vraiment d'où naissaient toutes ces œuvres qui ont constitué l'école nationale russe et aussi donc la peinture de ces ambulants.
Yeah.
Vladimir Galouzine dans le rôle de Sadko, l'orchestre du théâtre Mariinsky, dirigé par Valéry Gergiev. Un extrait du sixième tableau de Sadko, opéra de Rimsky-Korsakov. André Lichki, vous parlez justement de ces légendes russes. Là, on est plein dedans. Et il se trouve qu'effectivement, Répine a peint, en tout cas, Sadko dans le royaume sous-marin. Oui. Puisque là, dans le tableau qu'on vient d'entendre, il est descendu dans le royaume du roi océan.
Le Poséidon russe, en quelque sorte.
Voilà, exactement. Un tableau qui vient de Saint-Pétersbourg, qui date des années 1870, si j'ai bonne mémoire. Et là, on est vraiment dans les légendes russes.
Dans le fabuleux.
Voilà,
le fabuleux,
exactement.
Ouais. Sadko, dans un personnage légendaire, qui était à la fois un chanteur, donc un gousliar, c'était un joueur des gousliars.
C'est
cet instrument à cordes des bardes russes. C'est un peu comme le kantélé finlandais. Vous savez, il y a aussi les parallèles avec Väinämöinen, le personnage du Kalevala.
Tout à fait,
et en même temps, c'est une odyssée. Sadko part sur la mer et la fille du roi de la mer, la princesse Volkhova, tombe amoureuse de lui. Il est entraîné au fond de la mer et il joue pour le roi de la mer, dont il chante la gloire. Et tout le monde marin se met à danser et ça provoque une tempête. Les bateaux sont coulés. Et là apparaît un ancêtre sous l'aspect d'un preux qui pulvérise tout ce monde, ce monde marin. Et cette course se retrouve à la surface comme si de rien n'était et retourne dans sa ville natale de Novgorod.
Et là, c'est vrai que le tableau de Ilia Repine, très impressionniste, très
aquatique.
Oui, aquatique, exactement, qui tranche beaucoup avec le reste de la peinture qu'on voit, qui est au contraire très réaliste, avec notamment une profondeur, une intensité, notamment dans les portraits, dans les regards. Repine, qui était le contemporain de Rimsky-Korsakov, qui était tous les deux nés dans les années 1840.
On a évoqué même la même année. Il est dans Repine est né en
44.
La même année.
Non, 44 et Repine c'est 40. Voilà, ils ont 4 ans d'écart.
Oui,
voilà. Alors, je disais en introduction, André Lichki, le portrait le plus célèbre de Répine, en tout cas pour tous les mélomanes, c'est le célèbre portrait de Moussorgski.
Ce terrible portrait peint quelques jours avant sa mort, d'ailleurs.
Oui, on ne le sait pas forcément. Ça,
une semaine, je crois, 8-10 jours avant sa mort, dans l'hôpital où il avait été placé en cure de désintoxication, Moussorgski était alcoolique, et aussi pour la petite histoire, dans cet hôpital, il s'est trouvé un imbécile d'infirmier pour lui apporter une bouteille de cognac.
Et on connaît effectivement ce regard un peu trouble, ce visage bouffi, ce nez tout rouge.
Alors, le nez rouge de Moussorgski, là, il y a quand même une explication et on y soit qui mal y pense. Il n'est pas dû à l'alcool. Moussorgski, dans sa jeunesse, était officier d'un régiment de la garde, le régiment de Préobrajensk. Et au cours d'une parade hivernale qui avait duré très longtemps, il a eu des engelures sur le nez. Et ça, c'est les traces des engelures.
Indélébiles.
Indélébiles, absolument. Donc là, au moins, l'alcool n'y est pour rien.
Est-ce que, pareil, Moussorgski, en 1839, on est vraiment dans la même époque?
Absolument, c'est vraiment dans un mouchoir de poche. Une sorte une épidémie de génie, comme disent certains historiens de l'art, vous savez.
Exactement, ce célèbre portrait donc, qui vient de la galerie Tretiakov. Qu'est-ce qui, dans ce portrait de Moussorgski, André Lichki, vous paraît le plus impressionnant? Qu'est-ce qui retrace au mieux la personnalité de Moussorgski, compositeur que vous connaissez bien?
Le côté, ce décalage entre ce délabrement physique et quand même encore des jaillissements de créativité de temps en temps, parce que
il y a un côté ogre aussi dans ce personnage.
Il y a un côté ogre, oui. Et on sait par exemple que sur sa table de chevet, on a retrouvé le traité d'instrumentation de Berlioz. Donc jusqu'à la fin, il continuait à vouloir s'instruire. Il avait des projets musicaux. Et Répine, d'ailleurs, disait toujours « Quelle pitié que cette immense force qui a si mal géré son existence physique. »
Oui, qui est mort à 42 ans.
42 ans, exactement. D'ailleurs, pour la grande histoire, il y a aussi une loi des séries en cette année 1881 qui a vu disparaître trois des plus grandes personnalités russes de la littérature, parce que Dostoïevski est mort au début d'année, de la politique, parce que le tsar Alexandre II a été assassiné, peu de temps d'ailleurs avant la mort de Moussorgski, donc voilà, qui décède. Donc en quelques mois, la Russie a perdu trois de ses plus grandes personnalités. Loi des séries.
Brigitte Angereur au piano, c'était une larme de Modeste Moussorgski, une de ses toutes dernières, si ce n'est sa dernière.
Je crois sa dernière.
André Lichtke, oui, vous pensez, oui, c'est ça. Bien, oui, donc, oui. Une œuvre également donc, contemporaine de ce portrait de.
Quelques mois avant le portrait, oui, effectivement.
Ouais.
Oui, j'avais évoqué tout à l'heure Dostoïevski.
Donc, mort la même année, donc en 1881, quelques mois avant.
Mort en janvier, le 9 janvier, je crois. Et l'une des dernières parutions de Moussorgski au public a été, de manière un peu impromptue, lors d'une soirée organisée donc à la mémoire de Dostoïevski. Et Moussorgski avait improvisé sur le piano droit de la salle où ça se passait une sonnerie funèbre, une imitation de sonnerie funèbre qu'il savait fort bien faire au piano, un peu comme ce qu'on entend à la mort de Boris Godounov.
Ouais, avec voilà. Les sonneries de cloche et tout ça. Ouais. André Lichtke, il y a donc dans cette exposition consacrée à Ilia Repine au Petit Palais de très nombreux portraits qui sont vraiment une des grandes signatures d'Ilia Repine, puis aussi ces portraits de groupes, de foules qui sont extrêmement animés. Je pense notamment à ces cosaques Zaporog qui écrivent une lettre au sultan de Turquie. Ouais. Alors, un tableau ou des personnages vraiment truculents, haut en couleur, on va dire.
Ouais. Très haut en couleur, oui. Ouais. Parmi lesquels, d'ailleurs, on voit un cosaque qui rigole autant qu'il peut. Eh ben, c'est un écrivain et journaliste assez connu de l'époque, qui était justement un cosaque, qui s'appelait Vladimir Kiliarovski, qui a écrit un livre vraiment extraordinaire, Moscou et les Moscovites, un témoignage de son époque. Il avait vraiment, la gueule pour figurer dans ce tableau.
C'est vrai qu'ils ont tous des trônes sur ce tableau.
Et quant à cette lettre, c'est un chef-d'œuvre de diplomatie, parce que c'est un ramassis d'insultes et d'injures, mais qui confine au surréalisme, que Apollinaire, d'ailleurs, en a donné une sorte de transcription dans un de ses poèmes, et que Shostakovich ensuite a inclus
dans sa
14e symphonie. Ouais.
Mm-hmm. Cosaque Zaporog, qu'est-ce que ça veut dire alors?
Les porog, ce sont les cataractes d'un fleuve, c'est ceux qui habitent au-delà des seuils, donc les cataractes, les chute d'eau du Dniepr.
D'accord. Et alors, on a évoqué Glinka, on a évoqué Moussorgski, il y a d'autres compositeurs, il y a aussi, on voit également apparaître...
On voit Glazounov.
Glazounov, oui. On voit également Borodin, je crois.
Anton de Rubinstein.
Alors Rubinstein, alors il y avait les deux frères quand
il y a deux frères Rubinstein
pour l'histoire de la musique.
Le plus important quand même, c'est Anton qui était à la fois donc un compositeur qui a laissé une œuvre immense dont tout n'a pas survécu, il faut bien dire, qui était chef d'orchestre, fondateur et directeur du conservatoire de Saint-Pétersbourg.
Et son frère a
fondé 4 ans après le conservatoire de Moscou.
Oui, donc quand même deux frères
et
très importants.
Tchaïkovski a été élève à Saint-Pétersbourg, puis professeur à Moscou.
Она моя, вот мой ответ. Грозно явился ты, защитник, поздно, и ей, как мне, ты не судья.
Не приближайся ты к святыне, не тронь обитель ты мою.
Здесь больше нет твоей святыни, здесь я владею, я люблю.
Моя!
Alexandre Poliakov dans le rôle du démon Nina Dermina dans celui de l'ange, l'orchestre symphonique de la radio de Moscou, dirigé par Boris Rykin. Un extrait du démon, opéra d'Anton Rubinstein, créé à Saint-Pétersbourg
oui.
En 1875.
Exactement, donc contemporain des années d'activité de Moussorgsky, Rimsky-Korsakov et des autres.
D'après un poème de Lermontov.
Un grand poème de Lermontov qui se passe dans les monts du Caucase, en Géorgie notamment. Le démon qui est là de semer le mal partout tombe amoureux d'une belle princesse Tamara. Mais il ne peut pas lutter contre sa nature démoniaque et va faire périr son fiancé. Et en lui donnant le premier baiser, il va faire périr aussi Tamara. Mais un ange va sauver l'âme de Tamara malgré les velléités du démon de le contrecarrer.
Bon. Alors André Lichki, il y a une des dernières salles de cette exposition consacrée à Ilia Repine montre plusieurs portraits de Tolstoï, puisque donc Repine est allé le voir en son domaine à Yasnaya Poliana, c'est ça?
Oui, la clairière lumineuse.
Donc le domaine de la famille Tolstoï. Et il y a plusieurs portraits, notamment un qui est assez impressionnant, on le voit en train de labourer.
Oui, alors ça, oui, ça, Tolstoï, c'était son grand truc, il fallait retourner à la terre, faire le travail des champs. Il y avait une part de, sans doute, de sincérité, mais un peu aussi, il faut bien
de pause.
Dire, de pause, même qu'on dirait un peu vulgairement de frime, de sa part.
Très bien. Merci beaucoup André Lichki. En tout cas, j'incite tous nos auditeurs à aller voir cette exposition au Petit Palais qui est absolument magnifique et vous découvrez certainement un peintre vraiment méconnu. Ilia Repine, 1844-1930. Peindre l'âme russe, exposition qui s'accompagne d'un très beau catalogue publié aux éditions Paris Musée. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Romain Lenoir, attaché de production Annick Aumier. Excellente journée, excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.